Oui, bonjour, André Tanti, je suis vice-président du comité économique de santé. Moi, je voulais vous faire une annonce, c'est qu'on va faire évoluer la nomenclature très prochainement. L'avis de projet va pas tarder à sortir sur les orthèses d'avancée mandibulaire. On pourra les prescrire en première intention pour les appeler de 15 à 30 et il y aura une amélioration. Et je peux vous dire aussi que la CNAM est en gros travail actuellement pour valoriser l'acte, puisque l'acte de pause aujourd'hui existe, et que l'acte soit valorisé. Il y a quelques petits problèmes avec les dentistes, semble-t-il. Compte tenu du fait que la BPC est intégralement remboursée, il faut un acte opposable, et que ça pose quelques problèmes, semble-t-il, en janvier. Voilà. J'en ai dit maximum. Qu'est-ce que je voulais dire aussi alors, sur le parcours, parce que je pense qu'on n'avait jamais travaillé sur le parcours du patient en ce qui concerne les orthèses d'avancée mandibulaire, et on a mis un parcours qui est très clair, c'est-à-dire la prescription, l'intervention du médecin de pose, on va dire, qui va poser l'orthèse, et retour obligatoire au médecin prescripteur. On a bien indiqué médecin prescripteur. Un avis de projet de nomenclature devrait sortir, pour des raisons matérielles, il sortira plus tard au début mars.
C'est effectivement une excellente nouvelle qui va tout à fait avec ce qui nous était présenté par Valérie Nathalie. Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'effectivement, les patients pourront bénéficier du remboursement aussi bien sur le prix de l'orthèse que sur la prescription, sur la pose et la mise en place. C'est vraiment ça. C'est quelque chose d'important parce que jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas. Je pense que ça va apporter une réelle amélioration dans la prise en charge de ces patients. On s'était bien rendu compte lors du rapport de l'HAS que dommage qu'un traitement qui soit aussi efficace ou presque aussi efficace que la PPC puisse pas bénéficier d'un remboursement et qui en termes de remboursement est totalement disproportionné par rapport à ce qu'on peut obtenir avec la PPC. Est-ce que ça évoque des commentaires de votre part, Valérie?
Oui, moi je pense que ça va aussi améliorer la fluidité du parcours du patient parce qu'on s'est rendu compte que quand on est dans le même... Enfin, moi, je travaille avec un collègue qui est sur la pitié de la pétrière, qui est Jean-Marc Collet, et c'est assez facile de se parler le jour même de la consultation du patient et le patient, en général, la consultation du spécialiste dentaire le même jour que la mienne. Mais il y a des endroits où il ne s'est pas sur le même lieu. Et donc, on s'est aperçu qu'une fois que le patient, par exemple, sortait de la consultation, il mettait du temps à avoir un rendez-vous, après, il mettait du temps à y aller, après... Il pouvait laisser traîner et il mettait du temps à avoir son contrôle polysomnographique et qu'il y avait certains patients qui mettaient parfois un an à avoir un traitement efficace par orthèse d'avancée mandibulaire, ce qui est dommage. Je pense que le fait de prendre en charge l'acte dentaire va permettre à beaucoup de spécialistes de s'intéresser à la question et va permettre aux patients, notamment dans certaines régions, d'avoir vraiment des spécialistes dentaires qui proposent ce genre de prise en charge. Et du coup, je pense que ça va favoriser à la fois l'accès au traitement et la rapidité de mise en œuvre de ce traitement et l'efficacité.
Très bien. Frédéric ?
Juste pour compléter ce que dit Baël, c'est vraiment deux excellentes nouvelles, parce que ça va lever les deux principaux freins au développement de l'orthèse d'aujourd'hui, qui sont, un, le fait qu'elle était remboursée dans la mauvaise indication, ce qui est de façon quand même assez évident dans toutes les études. On montre que ça marche beaucoup mieux dans les formes modérées que dans les formes sévères, et on les utilise dans les formes sévères. Et deuxièmement, ça permet effectivement de prendre en compte l'acte dentaire qui n'est pas pris en charge aujourd'hui, qui est un frein majeur au développement de ce traitement. C'est vraiment de très, très bonnes nouvelles.
Eh bien, merci, M. Tanti. Donc, est-ce que vous avez d'autres commentaires, des questions par rapport à tout ce que vous venez d'entendre?
Concernant la stimulation du nerf hypoglosse, il me semble que Inspire a déposé un dossier auprès de la HAS en même temps que, je crois que c'est la société savante qui a demandé l'évaluation de l'acte. Est-ce que, au vu des données que vous avez présentées, vous pensez vraiment que le traitement sera pris en charge?
En fait, c'est passé dans la commission des dispositifs médicaux de la HAS, dont l'avis va être très vraisemblablement favorable dans les mois, voire avant qu'il vienne, puisqu'il y avait un aller-retour avec Inspire pour une demande de précision. Il est vraisemblable que, ensuite, alors, la CNAM donnera son avis, bien évidemment. Simplement, comme toujours, il y a des instances européennes. Par exemple, en Allemagne, il y a 43 centres. Je reviens d'une réunion justement d'experts sur la stimulation à Francfort. Et en Allemagne, il y a actuellement 43 centres qui sont donc habilités à poser des implants. En Hollande, ça devrait juste sortir. En Belgique, pour l'instant, il n'y a rien. En Finlande aussi, c'est accepté. Ça sera exactement comme pour les implants cochléaires. Hein. Donc, en gros, ce sera, puisque la procédure est à peu près identique en termes de coût, d'ordre de 20 000 euros, ce sera des centres dédiés, multidisciplinaires, obligatoires, hein, sur lequel il y aura l'association d'inventeurs de sommeil, d'ORL, de pneumologues. Il y aura seulement peu de centres, parce que la file active, le dossier qui a été déposé, c'est pour une pose de 500 implants par an en France. L'étudiant s'en est là, mais vous savez, comme toujours, une fois que la HAS a donné son avis, c'est un budget constant au niveau de la CNAM, donc il va falloir trouver ailleurs, je ne vais pas dire sur la PPC, ou, puis là, 500 représente un petit budget. Mais je crois, d'un autre côté, on ne peut pas être complètement absent de ce type de prise en charge. Mais ceci dit, je ne veux pas préjuger, puisqu'on se sent titillé de ce qui se passera ultérieurement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une prise en charge européenne qui se dessine un peu partout, alors après, avec des moyens différents. C'est tout le senti.
Ça sent la famille, ça fait 10 ans, je ne suis pas plus.
Oui, mais c'est quel est le budget de la PPC, ce senti. Un milliard. Donc,
non, pas du tout.
Je ne sais pas, je reprends quoi. 700 000 à...
Non. Actuellement, le budget remboursé par la Sécurité sociale de la PPC, on est en dessous de 500 000.
Il y a 700 000
remboursés. Oui, parce qu'à force de baisser les prix, on a quand même rattrapé une partie de l'augmentation.
Ah, donc voilà pour la réponse, je ne peux pas aller plus loin. En tout cas, actuellement, la HAS va donner un avis favorable. Hein. Très certainement, je pense que j'ai entendu dire, puisque la commission des politiques médicaux sur l'évaluation, surtout de la type de Strollo qui est sortie dans le New England.
Peut-être pour poursuivre un petit peu sur ce thème-là et pour nos deux intervenants, peut-être peut-on préciser pourquoi faut-il une endoscopie de sommeil pour un des modèles de stimulation et pas pour l'autre. Et deuxième élément, peut-on imaginer qu'il y a aussi d'autres éléments de sélection des patients par rapport à l'utilisation de cette stimulation qui ne repose pas uniquement sur l'endoscopie de sommeil, mais peut-être tout simplement sur... des éléments cliniques, des éléments même de confort ou de sensation des symptômes.
Je vous réponds pour l'endoscopie de sommeil. Dans l'étude pivot qui était publiée, il y a une différence entre le groupe européen et le groupe américain. Le groupe européen sélectionnait sur l'endoscopie de sommeil. On s'est aperçu très vite que lorsqu'il y avait un obstacle haut situé, en particulier circulaire au niveau du voile des amygdales, hein, c'est des causes d'échelle. Et donc, dans l'indication, il faut que ce soit un obstacle trobasilingual antéro-postérieur, un endoscopie de sommeil, et qu'il n'y ait pas d'obstacle haut situé. Donc, c'est pour ça que la sélection se fait en endoscopie de sommeil, alors que chez Intera, ils partent du principe que c'est l'ensemble de la masse linguale qui est propulsée en avant, hein, puisque c'est l'hydrostat, comme ils appellent ça sur la publication sur laquelle ils sont appuyés, pour lequel ils jugent qu'il n'y a pas à faire d'endoscopie de sommeil. C'est très bien, d'ailleurs, je trouve ça très intéressant, parce qu'on match deux technologies. Qui sont proches par le concept, mais qui sont un peu différentes en termes d'approche technique. Donc ça, je pense que ça sera intéressant de voir si finalement, vraiment, le problème, c'est que Imtar est un peu en retard sur son essai multicentrique. S'il veut, il cherche l'accord de la FDA en 2017.
Oui, si je peux juste ajouter, ça, c'est très intéressant. Je pense que ça sera peut-être pas à terme, quand on connaîtra mieux les mécanismes d'action et les répondeurs, ce sera peut-être d'ailleurs pas forcément les mêmes répondeurs avec le premier système, avec le deuxième système. Ce qui veut dire que, en fait, nous, c'est nous qui avons beaucoup de travail à faire pour vraiment identifier les bons patients, trouver les bons critères de force de langue, par exemple. Enfin, voilà, il faut qu'on soit créatif et qu'on cherche un peu à affiner, nous, nos critères de sélection. C'est vrai que l'endoscopie de sommeil, c'est quelque chose de très important. Dans Imtera, on l'avait fait dans l'étude THN2, en fait. Et c'est sur la base de ces résultats d'endoscopie de sommeil dans cette première étude THN2 qui se sont rendus compte que finalement, il n'y avait rien qui ressortait de très, très probant qui permettait d'imposer une endoscopie de sommeil pour la sélection ultérieure. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont été très restrictifs sur les critères anatomiques, c'est-à-dire que l'index d'apnée-hypopnée est très borné, l'index de masse corporelle est très borné, et probablement, en fait, on a éliminé des patients qui étaient un peu plus gros, qui étaient un peu plus sévères, qui auraient probablement été... des très bons répondeurs au traitement et pour lesquels l'endoscopie de sommeil aurait peut-être permis de mettre en évidence des critères intéressants.
Je vais un mot sur un sujet que justement ce qu'on dit à Francfort, puisque maintenant l'INSPIRE est en liberté, si je puis dire, maintenant de prescription. Il y avait une publication, une grosse équipe de Mannheim qui montrait que pour des index d'apnée, qu'ils avaient corrigé des index d'apnée à 100, qui n'est pas obèse en effet. C'est que maintenant, que que c'est une prise en charge, on va voir certainement s'étendre ou mieux serrer les indications, telles que c'est très limitatif, ou être pivot pour les deux.
Moi, j'ai deux patients répondeurs à Itera qui ne sont absolument pas dans les clous des critères. Hein. Donc, c'est bien. C'est-à-dire, il y en a un qui est en IMC, il a 40, et l'autre, il a un autre critère d'exclusion. Mais c'est, voilà, je pense que ça, c'est des vrais répondeurs, parce que c'est des gens, ils savent très très bien, ils le disent très très bien que c'est efficace. À la PSG, c'est efficace aussi. Voilà, je pense que les critères, pour l'instant, c'est les moins mauvais critères de sélection, les critères de sévérité et d'IMC, mais probablement que dans le futur, l'endoscopie de sommeil et d'autres critères de phénotypage vont prendre le dessus.